Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous.
Radio Player France, l'appli de toutes les radios.
À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Daniel Héréau. Enfant d'Ovalie, incontestablement citoyenne du monde, probablement.
Quatrième épisode, la passion de la transmission. Bonsoir, Daniel Héréau.
Amis du soir, bonsoir. Je vous salue très humblement.
Dans la deuxième émission, me semble-t-il, de cette série, vous nous parliez de déjà dans la première, cela dit, de l'importance de la passe. Qu'est-ce que c'est que passer, le symbole de la passe au rugby ? Eh bien, pour cette quatrième émission, j'aimerais que vous nous parliez des bras qui poussent et des mains qui offrent. Autrement dit, de la façon dont, par plusieurs voies complémentaires, l'enseignement, l'entraînement, les commentaires sportifs, les chroniques dans les journaux, les livres aussi, vous avez fait vivre votre passion de la transmission. Et la transmission du rugby. Et la transmission du sport. J'aimerais qu'on commence par un paradoxe. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas spécialement accroché à l'école, vous avez passé le CAPES de PS, vous êtes devenu prof de gym, et même entre 1976 et 1987, vous avez enseigné à l'université de Nice. Alors, de fait, ça peut me paraître un peu paradoxal. Meilleur enseignant qu'écolier, et surtout vous avez aimé ça, manifestement.
Oui, c'est ça. Le trajet, de fait, professionnel, tu vois, celui qui va se définir comme étant mon activité métier, quoi. Derrière la pratique sportive, infantile, juvénile, tu vois, qui m'amène jusqu'à la vingtaine d'années, malgré tout d'un bon niveau, c'est-à-dire que je côtoie les choses importantes dans la pratique sportive, mais enfin, elles sont quand même toutes que ludiques, récréatives, aucune n'est vraiment professionnelle. Le bain moral, tu vois, de mon enfance, il est autour des choses qui me plaisent, des choses qui me vont plutôt bien. Je sais que l'univers socialisant de l'activité sportive, il me gratifie. Ma relation avec mes amis ou mes amitiés de l'univers sportif, du temps, du jeu, est toujours une relation qui se veut, je n'ose pas dire de transmission, le mot ne m'effleure même pas, tu vois, même pas le sens, mais quand même cette qualité d'écoute, de faire passer des contenus, de fait. Voilà, et cet univers-là, j'en suis très imprégné. Je crois que j'ai été un pratiquant éducateur, mais naturel. Je n'ai pas été exclusivement un pratiquant sportif, tu vois, mais quand même, je ne sais pas, s'il faut que je dise le fond de l'âme, c'est je suis un éducateur du corps, moi. Tu vois, c'est j'ai aimé jouer, j'ai aimé courir, j'ai aimé les sensations de la vitalité corporelle, quoi, tu vois, à des degrés divers. Mais s'il fallait que je dise quelque chose, je suis allé, enfin, le jour où on m'a délivré le baccalauréat, enfin, comme si une porte s'était ouverte, j'allais là où j'aimais les choses. Tu vois. Moi, l'université, quoi, grosso modo, j'ai passé un CAPES, comme tu le disais, ce champ-là, culturel, quoi, à l'université à Marseille, oh, il devient lumineux, alors que tout avant était laborieux, on dira, voilà. Mais mon bonheur, moi, je connais pas les mots encore. Aujourd'hui, je commence un peu à les voir, mais tu vois, le mot de didactique ou de pédagogie, oh, moi, j'adore ça, j'adore la pédagogie. Alors, le mot est troublant, mais il faut dire après que j'y rentre un peu dedans pour... Ah non, mais j'adore. Voilà, cet univers-là, il est, comment dire autre chose que gratifiant. Ouais, il porte une forme de jovialité de fond. Tu vois, ça me plaît, j'aime bien ça. Moi, je connais rien d'Aristote, mais le fait qu'il soit prioritairement un pédagogue, ça me sensibilise. Mais alors, je sais même pas qui est Platon, à part que peut-être je le mettrais dans un imaginaire de seconde ligne à Biarritz, moi, tu vois. Simplement, fût-ce il y a très très longtemps, des gens se sont préoccupés de formuler, de théoriser, tu vois. Je connais rien du dénommé Socrate, je sais simplement qu'il a inventé la maïeutique. D'ailleurs, tu vois, quelle bouffonnade, quelque pédantisme, tu vois, culturel, tu joues avec les mots, tu te prends pour quelqu'un d'autre, garçon. J'ai eu un peu de goût de ça, là, mais là, je l'ai pas encore, hein, celui-là, tu vois. Celui-là de donner de la séduction à travers les mots, sûrement pas, tu vois ça. Mais maïotique, ça m'intéresse, parce que maïotique, ça vient, je suis pas toute la logique grecque, quoi, tu vois. Mais la mère de Socrate était une sage femme, elle a couché le monde, et lui, c'est un accoucheur de mots. C'est un accoucheur d'idées, c'est un accompagnant de vie, tu vois. Ah, mais t'as pas idée, hein. T'as pas idée comment cet univers-là, ce monde-là, l'accompagnement à la libération des richesses de chacun, de fait, quoi. Ah, tu vois. Je vois cette fonction, même cette mission, tu vois, d'éducateur, tu vois, qui. Je ressens quand même que le débat qui existe presque de partout, je dirais, quoi. Tu vois, qu'est-ce que tu es? Tu es un éducateur, tu es une mère, tu es un père, tu es un frère, tu es un enseignant, tu es un éducateur.
T'es qui, t'es quoi?
Et ouais, et si ces mots-là existent, ils ont des sens, ils ont des nuances entre eux, ils ont des différences. J'ai beaucoup débattu sur éducateur et entraîneur, par exemple, tu vois. Tu es éducateur à l'école, tu es entraîneur au club. Je me sentais pas radicalement différent, moi, dans ces deux milieux-là. Ces espaces-là, où tu accompagnes, où tu fais émerger, où tu proposes, ou parfois quand même tu cadres, ou quelquefois tu entraînes. D'ailleurs, tu mets du train, tu vois, de par ta posture, de par ton allure, tu vois. Ça, alors là, ou ça me plaît. Hein. Mais mon premier poste, moi, qui était très original, je suis nommé prof d'État, quoi. On sait pas bien où me mettre, mais enfin, on me met comme ça à disposition des gens qui pourraient avoir besoin de l'activité physique et sportive. Je vais à l'école, bien sûr, mais l'école de très handicapés. Je vais à la prison de Toulon. Je vais mettre un peu mon nez comme ça dans des lieux où chaque fois je me dirais, pour moi, c'est jouable. Dans aucun de ces lieux, je n'ai eu de crainte ni de, je n'ai pas eu de méfiance. Moi, je suis toujours allé avec. J'allais dire, un ballon et ma chemise ouverte, le plus souvent, mais parfois que ma chemise ouverte. J'ai jamais craint ou j'ai jamais redouté l'univers où la mission peut se dégager, tu vois, de faire quelque chose qui ressemblerait à un petit processus éducatif, quoi.
Le ballon et la chemise ouverte, mais quoi d'autre face à ces gamins qui étaient les premiers que vous voyiez à ce moment-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faisiez concrètement avec eux?
Oui, alors. J'ai enseigné pendant 2 ans dans ce qu'on appelle le foyer départemental de l'enfance. Ce sont des enfants, en général, ils ont entre 6 et 17 ans dans ces tranches-là, qui, pour X raison, de la plus bénigne à la plus compliquée, ou la plus bizarre, ou la plus douloureuse, on dira simplement, tu vois, sont retirés du milieu familial parce que la maison s'est écroulée sur la famille, et puis que, on les a placés là pendant quelques temps, jusqu'à, comme tu peux l'imaginer, toutes les perversions du monde qui peuvent attaquer les familles et qui font que les enfants sont placés. Bon, voilà. Là, j'y ai travaillé pendant des années. Je faisais de l'éducation physique. C'était un peu pareil d'ailleurs dans le milieu carcéral, par rapport aux classiques enseignants des structures d'État, qu'on appelle un collège, un lycée, tu vois, ou une université. En général, tu travailles avec des groupes qui sont assez conséquents, voilà, ce qui met toujours de la complexité. Un enseignant avec un grand groupe, c'est toujours un problème plus délicat. Et plus tu réduis le nombre d'individus, et plus tu personnalises les relations, et plus tu individualises le process éducatif, quoi, voilà. Voilà, j'étais enseignant en éducation physique. Alors, quand même, tout ce qui touchait à la composante sociale de la pratique. J'ai sans doute fait plus de sport collectif, moi, que de lancer de poids, tu vois.
Oui, voilà. Mais oui, mais c'est ce que j'allais vous demander, c'est que quand même, vous nous montrez que le rugby, c'est aussi une école de la vie, que ça initie à la rudesse de l'existence, que c'est se confronter à soi-même, c'est que ça apprend à vaincre ses peurs, à se sentir plus fort. Je pense, j'ose imaginer que c'est aussi ce que vous essayez de transmettre à ces gamins.
Oui.
Alors, de façon ou d'une autre.
Dans ce champ des valeurs humaines, qu'il faut définir aussi, hein. Les valeurs, c'est quand même les émois et les effluves de fond de ta personne ou de ta nature, qui vont t'amener à être généreux ou égoïste, qui vont t'amener à être courageux ou pleutre, qui vont t'amener à être sociable ou individuel. Tu vois, tout ce monde-là. Bon, on est dans le champ des valeurs humaines, quoi. Le souffle base, moi, je suis prof d'échange, quoi, voilà.
Éducateur des corps et prof d'échange.
Ouais, faut faire un peu attention, tu vois, parce que, mais de fond, c'est absolument ça, absolument ça. Il me plaît de comprendre pourquoi tu manques la balle. Quand on joue dans une équipe, pourquoi tu la manques? Il y en a qui l'attrapent quasiment jamais, pour diverses raisons, quelle que soit leur tranche d'âge. Ceux qui l'attrapent jamais quand ils sont grands, il y a un truc qui a pas été solutionné, il va falloir y revenir. Vite, bien, je m'aperçois quand même assez vite et très tôt, ce qui va faire quand même une lecture pour moi du monde de l'activité physique, que l'adresse ou la maladresse, tu vois, signe autre chose qu'une gestuelle encombrée. Tu vois, un peu temps. Quelques amis m'ont dit, quelqu'un qui n'attrape jamais la balle, c'est sûrement quelqu'un qui l'aime pas, mais c'est sûrement quelqu'un qui n'aime pas celui qui lui envoie, ou celle qui lui envoie la balle. Tu vois, c'est ça, alors là, j'arrivais au cœur de ma beauté d'être prof. Ces sujets-là me passionnent. Je serais inépuisable pour aller au stade et travailler là-dessus, pour faire les qualités des échanges, la qualité des liens, l'harmonie des circulations, tu vois, les timings justes. Alors après, faut-il encore aussi, quand tu rentres là-dedans, passer comment transmettre ça? Parce que dès que tu arrives dans le champ de la relation, tu vois, génératrice d'épanouissement, d'acquisition des cultures, encore une fois, je sais pas, si on échange bien, c'est qu'on s'apprécie probablement, ou tout au moins qu'on se respecte. Si on se respecte, c'est en sorte que on pourra peut-être fonctionner dans le partage. Et si on fonctionne dans le partage, peut-être on ira vers des bonheurs rares sur la vie des humains, y compris d'un jeune adolescent ou d'un enfant de milieu scolaire, quel que soit son âge d'ailleurs.
Toute cette pensée-là, cette pratique théorisée, cette théorie de la pratique, Daniel Herrero, vous êtes allé loin pour la perpétuer, la continuer, puisque vous avez commencé donc en foyer, en prison, et puis vous avez continué à l'université, et puis jusqu'à intervenir dans des conférences, dans des grandes écoles, l'ENA, dans des entreprises, dans des lycées agricoles, dans des EHPAD, jusqu'à un séminaire que vous avez conduit pendant 2 ans à l'École normale supérieure sur la pratique sportive d'opposition comme vecteur de socialisation. Donc là, vous êtes allé quand même très loin avec cette pensée-là d'accompagnant et de professeur d'échange. Qu'est-ce que vous avez tiré de toutes ces expériences-là ?
Je les ai pas additionnées. Je les ai même pas radicalement accumulées. J'étais enseignant à la fac pendant 10 ans. C'est des bouts de route très très conséquents avec des engagements personnels. Bon, voilà. Après, j'étais entraîneur pendant quand même des lustres. Tu vois, une carrière trop conséquente, longue de fait, quoi. Hein, bon, qui atteste quand même de ce que tu pourrais appeler des investissements. Mais en même temps, après toutes ces périphéries-là, elles m'ont toutes séduit. Je suis allé au lycée agricole de Pau, mais avec plaisir, quoi. Avec plaisir. Tu vois? Mais je suis allé à l'École normale supérieure, ce qui semblait, malgré tout, pouvoir boursoufler un peu ta conviction que tu te développes dans la pensée, dans ton activité professionnelle. Non, moi, j'ai jamais eu ça. Non, mais alors, vraiment, vraiment. Je voyais bien que le ciboulot des citoyens qui étaient avec moi, tu vois, était quand même particulièrement effervescent. Tu vois la métaphore, le ciboulot effervescent. Je suis allé à l'ENA, je voyais bien que le regard que l'on portait sur moi, enseignant d'éducation physique qui faisait une conférence à l'ENA, il avait des traits, je veux dire, on pourrait dire pas spécifiques ou identitaires. Mais les normaliens, par exemple, j'ai encadré un séminaire qui a duré quasiment 2 ans. À partir de là, on était dans des schémas de transmission, pareil, d'écoute, de débat, bien sûr, ce que j'aimais bien. Mais en même temps, moi, j'étais préoccupé. Que ça meilleur, que se bouge un peu mieux le cul quand ils sont ensemble sur un terrain, que et un peu le goût aussi de mettre en exergue eux qui sont quand même des gens infiniment bien équipés de la pensée humaine, je dirais, tu vois, et qui sont quand même un jour sur la route de la progression quasiment de notre civilisation, tu vois, que jamais on ne désespère de la capacité que l'on a aussi à grandir quand l'on vit bien les choses. Quoi.
En fait, vous avez fait vôtre cette phrase de votre ami et philosophe, on y revient toujours, hein, Michel Serres, qui remerciait ses entraîneurs pour lui avoir appris à penser.
Ah oui, alors là, j'étais très fier. Hein. Là, c'est l'introduction d'un bouquin de Michel Serres qui date de 27e ou de 28e. Michel Serres, il en a écrit 50, 60 peut-être. Hein. Le plus important pour moi, dans la première partie de sa carrière, c'est le 20e, de fait, qui s'appelle « Éclaircissement ». Il m'a beaucoup, à moi, comme je pense à d'autres, permis de comprendre les 19 premiers. Tu vois? Enfin, un des bouquins de Michel Serres qui expliquait les 19 premiers, qui faisait en sorte que ce monsieur, qui était un conteur exceptionnel et un agitateur d'idées sublimes, en même temps, dans l'écrit, il était parfois un peu austère, et le 20e, il avait rendu service. Et puis le 25e ou le 26e, magnifique livre, qui s'appelle Variations sur le corps. Très joli livre. Très bien illustré. Il avait aussi le goût de l'accompagnement iconographique. Et la dédicace, c'est effectivement celle que tu viens de dire, grosso modo, je remercie de façon définitive et éternelle, un truc de ce genre, tu vois, mes enseignants d'éducation physique et mes enseignants de rugby, mes éducateurs de rugby, qui m'ont aussi appris à penser. Alors moi, là, je l'ai pris comme un cadeau en perspective, quoi, tu vois. Ah ouais. Je voyais bien, j'étais un peu agité par ce genre d'idée, moi, mais quand même. Et je suis très sensible au fait, effectivement, que l'apprentissage, l'accompagnement, tu vois, d'un vécu à la fois relationnel et corporel, c'est quand même une des très belles hypothèses que tu grandisses en joie. On va faire attention à ces mots-là, mais que tu as un peu plus de chances de t'approcher du bonheur.
C'est avec tout ça que vous pensez avoir réussi à mener l'équipe du RCT, du rugby club de Toulon en finale, à la fois en 85, en 86, en 89 et surtout en 87, puisque vous l'avez amené à gagner le championnat de France. C'est fort de toutes ces expériences, de toute cette pensée, de toute cette pratique, où là, c'était... Puisque vous avez fait en sorte que eux soient meilleurs, vous dites tout à l'heure, quand vous vous adressiez à vos étudiants ou à des gamins en foyer, en prison ou n'importe où ailleurs. C'est la même chose avec les rugbymen que vous entraîniez. Alors, comment on fait pour arriver à ça? Allez, ouais, montez là.
Oui, oui, c'est ça. Alors, la nuance, elle est de taille, mais il faut la mettre en postulat, de fait. Hein. La nuance, c'est, fût-ce avec les élèves de ma classe de quatrième ou mes étudiants de la fac ou ceux de l'école normale, la mission était quand même que leur vécu personnel les transforme, je ne sais guère, les amène à un cheminement, quoi, tu vois, de vie qui soit plus, si tu dis plus sain, pourquoi pas, plus serein, ma foi, allons jusque là, tu vois, qui soit dans quelque chose qui te développe, qui te fasse... Après, quand tu arrives dans l'univers de la haute compétition, des athlètes sélectionnés, de ceux qui sont passés par des étapes, le club, le grand club, la grande équipe, le sommet, et là, bientôt, tu vas t'attaquer à la haute compétition. Là, quand t'es là, la mission quand même base, c'est même pas bien joué, hein. C'est gagner, de fait. Oh. Quand tu rentres dans cet univers-là, tu vois d'autres composantes qui t'arrivent quand même. Un, il faut qu'il continue à progresser. Il va à 17 sur 20, il faudra qu'il joue, si on le peut, à 17, 17 et demi. Et que moi, je suis a priori missionné pour les améliorer dans l'ensemble de leurs attributs. Voilà, les attributs physiques, les attributs moteurs, les attributs de gaillardise, les attributs de coordination, les attributs de perception, les attributs de sensation. Toi, tous ces attributs, là, moi je bosse au maillet en commençant à comprendre que plus t'arrives vers le très très haut, plus c'est dans le détail que vont s'affiner les ultimes progressions. Tu vois, un sauteur en touche à un bon niveau, il s'est sauté, le mec, il s'est impulsé, tu vois. Et en général, il est assez gainé en l'air, et il chute pas quand il monte. Et quand il redescend, il n'arrive pas comme une crêpe, quoi, tu vois. Bon, voilà, ça, merci, ça s'est fait. Mais après, en haut, par exemple, quand il saute, quand il est à 3,20 m de haut, tu vois, avec sa main, il a plusieurs angles, il va prendre un ballon qui sera 5 degrés d'angle par rapport à sa perpendiculaire, ou 3 degrés d'angle en reculant. On arrive dans les détails. Les détails, ils sont synonymes, souvent, quand même, d'une complexité. Bon. Et là, alors, comment on y arrive? Moi, là, ma préoccupation, bizarrement, elle s'envahit, mais puisque ça me persécute ou que ça m'active ou que ça me fuego depuis que je suis tout petit, c'est s'ils s'entendent bien, ils ont toujours des chances d'être plus forts. Cette préoccupation-là, elle est inépuisable. C'est-à-dire, tout ce que je vais faire pour travailler la mêlée, le bouffon de petite théorie serait de dire, il faut impérativement qu'en mêlée, on ait 8. 8, enfin, si chacun pousse en fonction de son talent, de sa puissance, ça fait donc une addition de 8 forces. Alors tu comprends bien que quand même, quand on est très serré, par exemple, il n'y a pas de déperdition de force que quand on est un peu écarté. Et là, presque tous les champs du jeu que je vais appréhender, je ne suis jamais embêté par la technique, je la répète, elle ne me passionne pas, elle me semble toujours porteuse quand même d'amélioration, de connaissance, mais alors c'est juste, ensemble. C'est la persécution de la, comment on dirait, de la résultante. La résultante. Plus que l'addition des forces.
Mais donc ça veut dire que c'est ensemble qu'ils ont gagné. C'est l'équipe qui a gagné. Ah, et pourtant, ouais. Daniel Herrero, dans le dictionnaire amoureux de l'Ovalie, il y a une entrée qui s'intitule « La confrérie des légendes ». Et la confrérie des légendes, c'est les quelques très grands noms, des très grands joueurs sur les, je sais pas, 50, 60 dernières années, puisque on remonte aux années 50-60 avec André Boniface. On passe par Lucien Mias et Jean Prat. Puis Jean-Pierre Rive, surnommé le Casque d'Or, qui était l'ancien capitaine du 15 de France. Et puis plus récemment, on a Serge Blanco, le Pelé du rugby, avec son élégance et son intelligence du jeu. Et alors, et après, là, on arrive plus récemment, ils sont pas, je crois, dans le dictionnaire, Fabien Galthié ou Antoine Dupont, aujourd'hui, qui joue. Est-ce que c'est dans les détails, dans la technique, dans tout d'un coup une envolée comme au Tour de France, il y en a un qui s'envole, qui part devant les autres, alors qu'ils sont tous ensemble. C'est ça qui fait le grand joueur, c'est ça qui fait qu'on se détache.
La question, fatalement, amène pour moi des réponses, j'ose pas dire évidentes, tu vois, mais je vois, Je vois à travers le temps, ma carrière étant longue, mon histoire quand même sur la planète ovale et malgré tout assez conséquente, donc je vois des talents, des joueurs masculins comme féminins qui ont émergé à un moment de groupe et qui ont été mis un peu en exergue. Mais ma culture, mon histoire et la culture de mon milieu, elle est allergique à l'émergence de la star. La star, grosso modo, une étoile, ça passe, ça brille, ça enchaîne vite, c'est éphémère le plus souvent. Tu vois ça? Nous, rugbyman, on peut pas penser à prioritairement analyser le jeu par rapport à un homme. Alors, ça ne peut pas. Jamais. C'est quand même toujours cette dimension collective. Avec, en même temps, je sais le risque que quand le collectif prend le dessus, les hommes s'enferment dans la balourdise de la domestication collective, quoi, tu vois. Et puis, il y a des régressions. Je crains la toute puissance d'un collectif qui est abasourdi la richesse individuelle. Je le crains comme le feu. Mais bon. Et dans notre histoire, il y en a qui ont émergé à des degrés divers. Il y en a peu, quand même, comme tu le remarques. Dans les contemporains, parce qu'on est un peu plus activés par nos réseaux divers, on les voit émerger, puis moi je les connais en plus, quoi, tu vois, évidemment, Antoine Dupont, il est meilleur joueur du monde. Mais sur l'allure générale, il y en a peu, dont tu en cites deux ou trois. Et cela, effectivement, à travers le temps, ils ont fait la place, ils ont fait leur place, d'abord en étant des Français, des joueurs de rugby français, avec la culture française, avec le talent de la performance, c'est-à-dire que les mecs réussissaient des choses, et ils étaient forts, quoi, ils étaient performants, acteurs, quoi. Mais c'est pas pour ça qu'ils restent dans l'auréole, dans le faisceau des lumières, quoi. T'en cites trois quand même majeurs, des grands anciens, grosso modo, André Boniface, Lucien Metz et Jean Prat. Ces gens-là, ces sportifs-là, ces rugbymen-là, rentrent dans la légende, dans la confrérie des rares, par définition, parce qu'ils sont gens de création, ils ont inventé quelque chose. Ils sont précurseurs. Ils mettent, durant leur carrière, à un moment, quelque chose que personne ne fait encore avant eux. Sur la terre de France et même dans le monde. André Boniface, par exemple, d'abord, il a une très belle esthétique. Il est le premier qui ressemblerait à un éphèbe grec, alors que tous les autres ressemblent quand même à des maçons japonais, quoi. Tu vois, c'est pas une flagornerie, mais bon, il dégage une esthétique. Mais c'est quand même pas pour ça. Merci. Puis ça, nous n'avons que peu de goût à le mettre en exergue. Par contre, il invente un truc. Dans la circulation dite latérale, déployée, quoi, tu vois. Lui, il a un frangin aussi avec qui il joue. Il fait ce qu'on appelle une passe croisée. C'est-à-dire, à un moment, il inverse les sens de course. Il y en a un qui court d'un côté, il te regarde à droite, et il va le passer à l'autre qui court de l'autre côté, il regarde à gauche. Moi, tu vois, à peu près. Et ça se faisait pas. Ça osait même pas se penser. Lui, il le fait en équipe de France, il le fait dans son club. On le fait dans le monde entier, on va le copier. Voilà. Bon, un autre qui s'appelle Lucien Mias, c'est lui qui est, tu sais, dans le rugby, il y a des avants, c'est des joueurs de combat, on appelle ça le pack, mot anglais, le paquet, pour le mot français. Tu vois, c'est des joueurs qui jouent en mêlée. Ces joueurs de joueurs en mêlée, ils avaient qu'une mission depuis 100 ans, c'était attraper les ballons en touche et pousser en mêlée pour avoir les ballons en mêlée. Grosso modo, c'était des fournisseurs de balles. Et Lucien Mias, il va apporter l'idée que, ah non, mais si on gagne la balle avec ces joueurs-là, ce paquet-là, ce moulon-là, ce tas-là, quoi, tu vois. Mais, et s'il a gardé entre eux, et s'il faisait des choses, pourquoi ne serait-il pas aussi des acteurs de la désorganisation de la défense? Tu vois, à peu près? Ça marche. Oh, le mec, il nous invente un peu deux ou trois trucs. On joue contre les Springboks, on les bat avec ça. On joue contre les Anglais, on les domine avec ça. Lucien Mias devient quelqu'un qui invente le charme de la classe. La classe dans l'aventure collective. Le mec, il est bon, il est brillant, et il joue avec d'autres. Tu vois, il invente ça. Parce que le paquet d'avant, ça porte la symbolique absolue du jeu de rugby, parce que là, il y a le tas. Là, il y a la fusion. Là, il n'y a pas la fission, quoi. La fission, c'est la distance, quoi. Non, là, il y a le tas. Là, il y a l'absolu du tas. Là, il y a le ventre ovale. Mais tous ces mots sont justes, hein. Tous ces mots sont justes, je t'assure, quoi. En même temps, voilà, à la sortie, bon, Lucien Mias, il invente ça. Et le troisième, donc, qui s'appelle Jean Prat, alors lui, il est... il apporte un truc, quand même, c'est qu'il est un capitaine durdou. Il est leader. C'est pas un gros gabarit, il joue dans le paquet d'avant. Il est leader, lead, il a une nature d'homme meneur, une nature un peu chef. Et il apporte, avec ça, l'idée, quand même, que c'est dans la capacité à s'aimer, je dirais, tu vois. Quand même, notre potentiel.
Proche de vous, quoi.
Je l'aime beaucoup.
Proche de vous.
Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ouais. Et en même temps, il va mettre de la nuance dans les choses de base. Notamment, Mias avait dit, on peut essayer d'utiliser la balle en travant. Quelques années après, lui, il dit, on peut essayer de l'utiliser, mais bien. Finement. Tu vois? Dans la circulation latérale, le dénommé Boniface avait dit, si on fait une face croisée, on peut amener le trouble chez la lecture, enfin, dans les gens qui vont lire le jeu en face. Et Jean Prat, il met à la fois de la fluidité dans les circulations, de la nuance dans la gestuelle. C'est Jean Prat, de fait, qui invente la petite phrase d'ouverture de cette séquence-là. Les bras qui poussent et les mains qui offrent. Probable, tu vois. Et ensuite, après quand même, les plus contemporains, Jean-Pierre Rive, il éclate aux yeux de la fraternité rugbystique parce qu'il est titulaire, un, d'une esthétique quand même remarquable. Tu vois, le mec, il est blond comme les blés. Il y en a très peu, malgré tout, des blonds. Ben, il y en a, évidemment. Il est capitaine. Et il est capitaine parce qu'il est sans doute plutôt bon, plutôt pas trop mal. Tu vois. Et il a un talent que quand il est rare, on le remarque. Quand il est exceptionnel, on commence à l'admirer. Et quand il est unique sur la planète, on le bade. Lui, c'est le mec le plus courageux de toute l'histoire du rugby français. Le plus courageux. Il n'a pas des attributs considérables. Tu vois, 1m80, 80 kilos, c'est pas un buffle. Et lui, il propulse ça. Et alors, il le propulse, comme il est un peu empanaché, tu vois, qu'il a ce courage considérable, il devient un peu porteur de l'image, malgré tout, de l'âme de France, de l'âme ovale de France. Courageux, empanaché, plutôt du genre de mec à dire, sans le formuler, « Suivez-moi ». Tu vois, voilà. Et ensuite, Serge Blanco, lui, il rentre quand même un peu dans la mémoire. Mais du temps où il rentre dans la mémoire du rugby français, c'est-à-dire grosso modo aux années 2000, un peu avant, quoi, les années 80-90, Serge Blanco, lui, il a ce qu'on appelle la classe, qui est aussi un concept très difficile à définir et qui reste dans le champ presque sportif. Quoi. Tu vois, il a quelque chose qui ressemble à de la classe, qui est un peu différent du charme, qui est un peu différent de l'élégance, qui est un peu différent de la performance, qui est un peu différent de l'aptitude ou des potentiels. La classe. Comme on ne sait pas très bien, nous, en rugby ou en sport, on dira... C'est quand t'es au-dessus de la technique, que la technique, elle te pose plus problème. T'arrives quelque part, tu sais faire. Et Blanco, comme il a des attributs considérables, il a la classe. Blanco, il fait des choses comme personne ne fait sur un terrain. Si t'apprends à jouer au rugby comme jouait Blanco, ça marchera jamais. Non. Ce garçon-là, il avait, je sais pas, il y en a un maintenant, qui va rentrer dans le champ des classieux, tu vois, et qui est peut-être celui qui va faire gagner l'équipe de France à la Coupe du Monde à venir, il s'appelle Damien Penaud et pas Antoine Dupont. Ce sont à la fois des chevaux fous, des gambadeurs uniques. Ils peuvent courir en cercle, en reculant, en partant derrière la tribune, en faisant la bise à leurs copines dans la tribune et revenir sur le terrain. Ils font les impensables et les impensés. Ça marche souvent, très souvent ils se plantent, mais alors quand ça marche, c'est éblouissant.
Pour clore cette émission sur la transmission, j'ai quand même une question à vous poser qui est un peu plus d'ordre personnel, disons, Daniel Herrero. Vous avez deux enfants, vous avez des petits-enfants. Est-ce que vous avez transmis votre passion à vos enfants, à vos petits-enfants? Autrement dit, est-ce qu'ils font du sport ou du rugby?
Alors, tu vois, répondre à cette question, pour moi, c'est un bout de route assez considérable dans le fond de la chose, quoi. Le fond de la chose, c'est... Est-ce que tu transmets que des choses que tu aimes, en l'occurrence moi, une pratique, ou est-ce que tu imprègnes, tu imbibes, tu conditionnes pas, hein, tu vois, tu orientes, mais avec le beau cœur du mot orienté, quoi. Regarder l'orient, de fait, regarder l'or, regarder la lumière, quoi, tu vois. Moi, sans aucun doute, dans le champ de la passion, plus que du rugby, tu vois, si je suis quelque part emblématique, c'est encore une bouffonnerie, plus forte raison quand t'es un père, quoi. Hein. Même quand t'es un éducateur, d'ailleurs. Mais si quelque part, tu éclaires une route, ou tu accompagnes sur une route, en l'occurrence tes enfants, tu vois, ce qui est majeur quand même dans la vie d'un humain, quoi. Et voilà, c'est quand même que, pour moi, ça sera plus sur aimer comme un fou ce que tu fais, que bien jouer au rugby.
Merci Daniel Herrero. On se retrouve demain soir pour la dernière?
Je vous languis.
Déjà. Déjà la dernière. Je ne sais pas si on arrivera à tout dire. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Fabien Gosset, réalisation Félicie Faugère, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.